Conte d'une grand-mère, tome 2e, par George Sand. Le géant Yeus. Premier chapitre. Lorsque j'habitais la charmante ville de Tarbes, je voyais toutes les semaines à ma porte un pauvre estropié appelé Miquelon, assis de côté sur un petit âne et suivi d'une femme et de 3 enfants. Je leur donnais toujours quelque chose et j'écoutais toujours sans impatience l'histoire lamentable que Miquelon récitait sous ma fenêtre, parce qu'elle se terminait invariablement par une métaphore assez frappante dans la bouche d'un mendiant. « Bonnes âmes, disait-il, assistez un pauvre homme qui a été un bon ouvrier et qui n'a pas mérité son malheur. J'avais une cabane et un bout de terre dans la montagne, mais un jour que je travaillais de grand cœur, la montagne a croulé et m'a traité comme me voilà. Le géant s'est couché sur moi. La dernière année de mon séjour à Tarbes, je remarquais que, depuis plusieurs semaines, Miquelon n'était pas venu chercher son aumône, et je demandais s'il était malade ou mort. Personne n'en savait rien. Miquelon était de la montagne, il demeurait loin, si toutefois il demeurait quelque part, ce qui était douteux. Je mis quelque insistance à m'informer. Je m'intéressais surtout aux enfants de Miquelon, qui étaient beaux tous 3. J'avais remarqué que l'aîné, qui avait déjà une 12 années, était très fort, paraissait fier et intelligent, que par conséquent, il eût pu commencer à travailler. J'avais fait reproche aux parents de n'y pas songer. Miquelon avait reconnu son tort. Il m'avait promis de ne pas trop prolonger cette école de la mendicité, qui est la pire de toutes. Je lui avais offert de contribuer et de faire contribuer quelques personnes à l'effet de placer cet enfant dans une école ou dans une ferme. Miquelon n'était pas revenu. 15 ans plus tard, ayant depuis longtemps quitté ce beau pays, je m'y retrouvais de passage, et comme je pouvais disposer de quelques jours, je ne voulus pas quitter les Pyrénées sans les avoir un peu explorées. Je revis avec joie une partie des beaux sites qui m'avaient autrefois charmé. Un de ces jours-là, voulant aller de Campan à Argelès par un chemin nouveau pour moi, je m'aventurais à pied dans les vallées encaissées entre les contreforts du pic du Midi et ceux du pic de Montaigu. Je ne pensais pas avoir besoin de guide. Les torrents, dont je n'avais qu'à suivre le lit avec mes jambes ou avec mes yeux, me semblaient devoir être les fils d'Ariane destinés à me diriger dans le labyrinthe des gorges. J'étais jeune encore, rien ne m'arrêtait. Aussi, quand j'eus gravi jusqu'au charmant petit lac d'Ouskouaou, je me laissais emporter par la tentation d'explorer la crête rocheuse, au revers de laquelle je devais trouver un autre lac et un autre torrent. Le lac est le torrent d'Isaby et par conséquent les sentiers qui redescendent vers Villongue et Pierrefitte. Pensant que j'aurais toujours le temps de reprendre cette direction, je pris sur ma droite et m'enfonçai dans une coulisse resserrée que côtoyait en s'élevant un sentier de plus en plus escarpé. C'est là que je me trouvais en face d'un beau montagnard très proprement vêtu de laine brune, avec la ceinture rouge autour du corps, le béret blanc sur la tête et les espadrilles de chanvre aux pieds. Comme nous ne pouvions nous croiser sur ce sentier sans que l'un de nous s'effaçât, le dos un peu serré à la muraille de roche, je pris position pour laisser passer cet homme qui paraissait plus pressé que moi. Mais tout en soulevant son bonnet d'un air poli, il s'arrêta au lieu de passer et me regarda avec une attention singulière. Je l'examinais aussi, croyant bien ne pas rencontrer son regard pour la première fois, mais ne pouvant me rappeler où et quand j'avais pu remarquer sa figure. « Ah ! » s'écria-t-il tout à coup d'un ton joyeux. « C'est vous ? Je vous reconnais bien, mais vous ne pouvez pas vous rappeler. » « Pardon, je passe devant. Inutile de nous croiser. À 2 pas d'ici, le chemin est plus commode. Je veux vous demander de vos nouvelles. Je suis content, bien content de vous retrouver. »« Mais qui êtes-vous, mon ami ? » lui dis-je. « J'ai beau chercher. »« Ne causez pas ici, » reprit-il. « Vous avez pris un mauvais sentier. Vous n'êtes pas un montagnard. Il faut penser où l'on met le pied. Suivez-moi. Avec moi, il n'y a pas de danger. » En effet, le sentier devenait vertigineux, mais j'étais jeune et j'étais naturaliste, je n'avais pas besoin d'aide. 5 minutes plus tard, le sentier tourna et entra dans une des rainures sauvages qui aboutissent en étoile au massif du Montaigu. Là, il y avait assez d'espace pour marcher côte à côte et je pressai mon compagnon de se nommer. « Je suis, me dit-il, Michel Miquelon, le fils aîné du pauvre Miquelon, le mendiant qui allait vous voir tous les jours de marché à Tarbes et à qui vous donniez toujours avec un air d'amitié qui me faisait plaisir. » Car dans ce malheureux métier-là, on est souvent humilié, ce qui est pire que d'être refusé. « Comment ? C'est vous, mon brave, qui êtes ce petit Michel ? En effet, je reconnais vos yeux et vos belles dents. Mais pas ma barbe noire, n'est-ce pas ? Tutoyez-moi encore, s'il vous plaît, comme autrefois. Je n'ai pas oublié que vous me vouliez du bien. Vous n'étiez pas riche, je voyais ça. Et pourtant, vous auriez payé pour me mettre à l'école. » Mais le pauvre père est mort là-dessus, et il s'est passé bien des choses. Raconte-les-moi, Michel, tu parais sorti de la misère et je m'en réjouis. Pourtant, si je puis te rendre quelque service, l'intention y est toujours. Non, merci. Après bien des peines, tout va bien pour moi à présent. Cependant, vous pourriez me faire un grand plaisir. Dis, ce serait de venir dîner chez moi. « Volontiers, si ce n'est pas trop loin d'ici, et si je peux arriver ce soir à Argelès, ou tout au moins à Pierrefitte. »« Non, il n'y faut pas songer. Ce n'est pas bien loin, ma maison, mais c'est un peu haut. Il est déjà 4 heures, et pour redescendre de ce côté-ci au soleil couché, non, c'est trop dangereux. »« Je vois bien que vous avez bon œil et bon pied, mais je ne serai pas tranquille. Il faut que vous passiez la nuit chez moi. Voyons, faites-moi cet honneur-là. » Vous ne serez point trop mal. C'est pauvre, mais c'est propre. Oh, j'ai trop souffert des vilains gîtes dans mon enfance pour ne pas aimer la propreté. D'ailleurs, vous ne mourrez pas de faim. J'ai tué un isard il n'y a pas 8 jours. La viande est à point. Venez, venez. Si vous refusez, j'en aurai un chagrin que je ne peux pas vous dire. Ce bon Michel était si sincère. Il avait une si agréable figure que j'acceptais le grand cœur, et j'aurais accepté de même s'il eût fallu coucher sur la litière et souper avec le lait aigre et le pain dur des chalets. Tout en marchant, je le questionnais. Il refusa de répondre. « Nous entrons dans le plus dur de la montagne, » me dit-il. « Il ne faut pas causer, ce n'est ni commode ni prudent. Quand nous serons chez moi, je vous raconterai toute mon histoire, qui est assez drôle, et vous verrez. » « À présent, mettez vos pieds où je mets les miens, ou plutôt, je n'ai pas le pied grand. Mettez mes espadrilles par-dessus vos bottines. Vous n'êtes pas chaussés comme il faudrait. »« Et tu iras pieds nus ?»« Je n'en marcherai que mieux. » Je refusais. Il insista. Je m'obstinais et je le suivis, piqué un peu dans mon amour-propre. Je dois avouer pourtant que j'eus quelque mérite à m'en tirer sans accident. Nous escaladions à pic des talus pénibles pour descendre des ravins glissants. Nous traversions des neiges qui cachaient des cailloux polis roulant sous le pied. Le pire était de suivre des versants tourbeux sur des sentiers tracés, c'est-à-dire défoncés par les troupeaux. Enfin, nous débouchâmes tout à coup, après une dernière escalade des plus rudes, sur un bel herbage qui offrait une large voie ondulée, entre de fraîches collines surmontées de contreforts hardiment dessinés. Nous étions dans le cœur, ou, pour mieux dire, dans les clavicules de la montagne, dans ces régions mystérieuses que renferment les grands escarpements, et où l'on se croirait dans les doux vallons d'une tranquille Arcadie, si, çà et là, une échancrure du rempart ne vous laissait apercevoir une dentelure de glacier à votre droite ou un abîme formidable à votre gauche. « À présent que nous voici dans le pli, me dit Miquelon, nous pouvons causer. Vous êtes chez moi, ce vallon m'appartient tout entier. Il n'est pas large, mais il est assez long et la terre est bonne, l'herbe délicieuse. Tenez, vous pouvez voir là-bas mes cabanes et mon troupeau. Nous habitons cela une partie de l'année, et l'hiver nous descendons dans la vallée. Tu dis-nous, tu es donc en famille ? Je ne suis pas mariée, j'ai mes 2 jeunes sœurs avec moi. Je ne suis pas encore assez à l'aise pour avoir femme et enfant avant qu'elles ne soient établies. Ça viendra sans doute, rien ne presse. Nous vivons en paix. Je vous les présenterai, ces petites que vous avez vues si misérables. Ah, dame, elles aussi sont changées. Mais voyez d'abord mes belles vaches en passant. Certainement, elles font honneur à ton pâturage. Cependant, il ne doit pas être facile de les faire descendre d'ici. C'est très aisé, au contraire. À l'autre bout de mon petit bien, il y a un sentier que j'ai rendu très praticable. Celui où je vous ai rencontré n'est pas le bon. Il fallait bien le suivre ou vous faire faire un trop grand détour. J'allais au hasard, mais toi, tu avais un but et je te l'ai fait manquer. Et j'en suis bien content. J'aurais voulu avoir quelque chose à sacrifier au plaisir de vous voir. Mais l'affaire que j'avais à l'Espone peut être remise à demain. Nous arrivions à l'enclos en palissade, qui était comme le jardin de l'habitation. À vrai dire, les légumes n'étaient pas variés. Je crois qu'il n'y avait que des raves. Le climat à cette hauteur est trop froid pour mieux faire. En revanche, les plantes sauvages étaient intéressantes, et je me promis de les examiner le lendemain matin. Michael me pressait d'entrer dans sa demeure qui, au milieu des chalets de planches destinés au bétail, avait un air de maison véritable. Elle était bâtie tout en marbre rougeâtre brut, avec une forte charpente très basse, couverte de minces feuillets de schiste en guise de tuiles. Elle pouvait braver les 2 mètres de neige sous lesquels elle était ensevelie tous les hivers. À l'intérieur, des meubles massifs en sapin, 2 bonnes chambres bien chauffées. Dans l'une, les sœurs couchaient et travaillaient à la confection des repas. Dans l'autre, Michael avait son lit, un vrai lit, sans drap, il est vrai, mais garni de couvertures de laine fort propres, une armoire, une table, 3 escabeaux et 12 douzaines de volumes sur un rayon. « Je vois avec plaisir que tu sais lire, » lui dis-je. « Oui, j'ai appris un peu avec les autres et davantage tout seul, quand la volonté y est, mais permettez que j'aille chercher mes sœurs. » Il me laissa seul après avoir jeté dans l'âtre une brassée de branches de pin, et je regardais ses livres, curieux de voir en quoi consistait la bibliothèque de l'ex-mendiant. À ma grande surprise, je n'y trouvais que des traductions de poèmes de premier choix. La Bible, l'Iliade et l'Odyssée, la Louisiade, Roland Furieux, Don Quichotte et Robinson Crusoé. À la vérité, pas un seul de ces ouvrages n'était complet. Leur état de délabrement attestait leur long service. Quelques feuillets brochés contenaient en outre la légende populaire des 4 fils Aymon, diverses versions espagnoles et françaises sur le thème de la chanson de Roland. Enfin, un petit traité d'astronomie élémentaire très éraillé, mais complet. Michael rentra avec ses sœurs, Maguelone et Myrtille, 2 grandes filles de 18 et 20 ans, admirablement belles sous leur capulet de laine écarlate et très proprement endimanchées pour me recevoir. Après avoir rentré leurs vaches, elles s'étaient hâtées de faire cette toilette en mon honneur. Elles n'en firent pas mystère, ni ayant point mis de coquetterie. Après que nous eûmes renouvelé connaissance, bien que l'aînée seule se souvint vaguement de moi, l'une s'empressa d'aller mettre le cuisseau d'Isard à la broche, tandis que l'autre dressait la table et arrangeait le couvert. Tout était fort propre, et le repas me parut excellent, le gibier cuit à point, les fromages exquis, l'eau pure et savoureuse, le café passable, car il y avait du café. C'était le seul excitant que se permit le patron. Il ne buvait jamais de vin. Je trouvais les sœurs charmantes de naturel et de bon sens. L'aînée, Maguelone, avait l'air franc et résolu. Myrtille, plus timide, avait une douceur touchante dans le regard et dans la voix. Plus occupée de nous bien servir que d'attirer l'attention, elles parlèrent peu, mais toutes leurs réponses furent sages et gracieuses. Quand le couvert fut enlevé, « Êtes-vous fatigué ?» me dit Michael. « Voulez-vous dormir ou apprendre mon histoire ?»« Je ne suis pas fatigué. Je veux ton histoire. Je l'attends avec impatience. »« Eh bien donc, » reprit-il, « je vais vous la dire. » Et se tournant vers ses sœurs, « Vous la connaissez de reste, vous autres. »« Nous ne la connaissons pas assez, » répondit Maglone. « C'est-à-dire, » ajouta Myrtille, « ça dépend. » Nous la connaissons toutes d'une manière, mais de l'autre, tu ne la comptes jamais autant que nous voudrions. Mes yeux étonnés demandaient à Michael l'explication de cette réponse profondément obscure. Celui-ci s'adressant à Maguelon. « Fais comprendre cela à notre hôte, » dit-il. « La petite ne parle pas mal, mais toi, tu parles mieux, étant l'aîné. » « Oh, je ne saurais pas expliquer la chose, » s'écria Maguelon rougissant. « Si fait, lui dis-je, je vous prie d'expliquer, et je vous promets des questions si je ne comprends pas tout de suite. » « Eh bien, » répondit-elle un peu confuse, « voilà ce que c'est. Mon frère ne raconte pas mal quand il dit les choses comme elles sont pour tout le monde, mais quand il les dit comme il les a vues et comme il les entend, il est plus amusant. Et il y a des jours où on ne se lasse pas de l'écouter. Dites-lui d'avoir confiance. Peut-être qu'il trouvera au bout de sa langue des imaginations comme il en lit dans ses livres. » Je priais Michael de se livrer à son imagination, puisque l'imagination devait jouer un rôle dans son récit. Il se recueillit un instant, tout en attisant le feu, regarda ses sœurs avec un bon et fin sourire, et tout à coup, l'œil brillant et le geste animé, il parla ainsi.